Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 13 avril 2023. En direct de Washington, Eric Manelakidza. D'abord le sommaire. Les djihadistes affiliés à l'État islamique prennent le contrôle de Tidermen au Mali, accentuant l'isolement de Menaka. L'Allemagne se concentre sur le Niger après le retrait annoncé de ses troupes du Mali. La Côte d'Ivoire va aménager deux sites de transit pour les réfugiés burkinabés fuyant les violences djihadistes. Le gouvernement américain propose des normes plus strictes pour encourager les voitures électriques. Passeport, la RDC qui se prépare à accueillir les 9e Jeux de la Francophonie malgré les défis logistiques. Et en économie, l'ABAD, la Banque africaine de développement, mobilise 4 millions de dollars pour aider le Burundi à se procurer 3000 tonnes d'engrais. Pour l'instant, le journal. Tout d'abord, direction le Mali. Lundi soir, des militants djihadistes liés au groupe État islamique ont pris le contrôle du village Tidermen, accentuant ainsi l'isolement de la capitale régionale de Menaka. Michel Joseph.
La chute de Tidermen fait suite à des mois de combats menés par le groupe État islamique au Grand Sahara pour s'emparer de ce village à quelques 75 kilomètres au nord de Menaka. Tidermen est tombé aux mains de Daesh, a déclaré un élu local qui s'est replié à Menaka en utilisant l'acronyme arabe du groupe État islamique. Il distribue des Corans à la population, a-t-il ajouté, s'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. Les régions de Menaka et de Gao ont été le théâtre d'intenses combats entre le groupe État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, ainsi qu'avec d'anciens rebelles Touareg, signataires de l'accord de paix en 2015, et des loyalistes au gouvernement. Des centaines de civils ont été tués et des communautés ont été déplacées en masse, dont certaines ont traversé la frontière pour se réfugier au Niger.
Le ministre allemand de la Défense a annoncé que malgré le retrait de ses troupes du Mali, Berlin maintiendra son engagement en faveur de la sécurité dans la région du Sahel en concentrant ses efforts sur le Niger voisin. Déclaration intervenue lors de sa première visite au Mali et au Niger du mercredi au vendredi. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La sécurité dans la région du Sahel est dans l'intérêt de l'Allemagne. Bien que nous mettions fin à notre engagement militaire avec la MINUSMA, nous restons engagés dans la région, a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. L'Allemagne a annoncé en novembre dernier son intention de retirer ses troupes engagées dans la mission de l'ONU au Mali. Ce retrait interviendra d'ici mai 2024. Le gouvernement allemand a décidé le mois dernier d'envoyer 60 soldats au Niger pour participer à une nouvelle mission menée par l'Union européenne. Cette participation doit encore être discutée au Parlement allemand. S'exprimant à son arrivée sur une plateforme de transport aérien à Niamey, M. Pistorius a déclaré que le soutien militaire et le soutien au développement sont essentiels pour stabiliser la région. Le ministre de la Défense est accompagné par la ministre du Développement, Svenja Schulze. Tous deux vont poursuivre leur visite au Mali aujourd'hui et demain vendredi.
L'armée soudanaise a mis en garde aux premières heures ce jeudi contre ce qu'elle a décrit comme une mobilisation des forces et un redéploiement des forces et de soutien rapide dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes, rapportait l'agence Reuters. Dans un communiqué, l'armée a déclaré que les mouvements de ses forces spéciales représentaient une violation claire de la loi. Les forces de soutien rapide ont pour leur part indiqué dans une déclaration antérieure qu'elles se déployaient dans tout le pays dans le cadre de leurs fonctions normales. En Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité dirigé par le président Alassane Ouattara a déclaré mercredi que deux sites de transit seront aménagés pour accueillir environ 18 000 réfugiés en provenance du Burkina Faso qui cherchent à échapper aux violences perpétrées par des groupes djihadistes dans le nord de leur pays. John Lyndon.
Le Conseil national de sécurité annonce l'aménagement de deux sites de transit dans les départements de Ouangoloudougou dans le nord et Bouna dans le nord-est pour accueillir provisoirement quelques 18 846 réfugiés, un nombre estimé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le nombre a bondi car en février 2022, l'OHCR en dénombrait environ 7 000. Certains réfugiés ont été accueillis par des proches ou des parents. Ces réfugiés fuient les attaques djihadistes qui touchent le Burkina Faso depuis 2015 et qui sont parfois perpétrées à quelques kilomètres du nord ivoirien. Ces attaques, selon des ONG, ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires confondus.
La Tunisie connaît sa 4e année de sécheresse, mais contrairement aux années précédentes, le manque de pluie touche aussi le nord-ouest fertile qui fournit le pays en céréales. La dépendance du pays aux importations va donc s'accroître dans un contexte de prix très élevé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de producteurs majeurs. Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'université d'Oxford a reçu le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé dans ce pays. Une première pour ce vaccin qui suscite beaucoup d'espoir selon un communiqué publié ce jeudi. Il a été approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme, précise le communiqué de l'université. Le paludisme, maladie parasitaire transmise par les moustiques, a tué 627 000 personnes, principalement des enfants africains, au cours de la seule année 2020.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain arrivé en Irlande hier mercredi rencontre aujourd'hui le président irlandais Michael Higgins, puis le Premier ministre Leo Varadkar. Joe Biden s'adressera surtout aux deux chambres du Parlement irlandais, un discours qui rappellera forcément celui de John F. Kennedy en 1963, seul autre président américain catholique, également d'origine irlandaise. Dans un pub, M. Biden a décrit l'Amérique et l'Irlande comme des terres de possibilités et de foi en l'avenir. Il y plantera un arbre et entendra sonner la cloche de la paix installée en 2008 pour célébrer le 10e anniversaire des accords de paix en Irlande du Nord. Le gouvernement américain a proposé des normes plus rigoureuses pour limiter les émissions polluantes des voitures. Washington veut encourager les constructeurs à vendre des voitures électriques qui représentent 2/3 de leurs ventes d'ici 2023. Nanit Talani.
L'administration ne fixe pas un quota précis de véhicules propres à vendre, mais l'Agence de protection de l'environnement prévoit de restreindre progressivement la quantité moyenne d'émissions polluantes des nouveaux véhicules produits par chaque constructeur, les incitant à électrifier de plus en plus leur flotte. Ces nouvelles normes, objet d'une consultation publique, devraient permettre d'éviter près de 10 milliards de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2055, soit plus du double des émissions aux États-Unis en 2022, estime l'EPA. Elles nous aideront à respecter nos engagements internationaux en matière de lutte contre la crise climatique, tout en améliorant la qualité de l'air dans l'ensemble du pays, a souligné le patron de l'agence, Michael Regan, lors d'une conférence de presse. Il ajoute que si elles sont bien appliquées, ces mesures vont permettre par ailleurs de réduire les importations de pétrole et les dépenses en carburant des automobilistes.
Les Français sont appelés à faire grève et à manifester ce jeudi contre la réforme des retraites. Ultime mobilisation à la veille d'une décision déterminante du Conseil constitutionnel sur ce projet emblématique et controversé du second quinquennat du président Emmanuel Macron. La réforme prévoit le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. L'intersyndicale a décidé d'organiser cette démonstration de force, la 12e en 3 mois, avant la décision des sages vendredi qui annonceront s'ils valident ou censurent partiellement ou en totalité le projet de loi. Hier, M. Macron a estimé que la décision du Conseil viendrait clore un chemin et clarifier toutes les questions qui s'opposent avant d'annoncer qu'il proposerait dans un esprit de concorde une rencontre aux partenaires sociaux dans la foulée. La ministre allemande des Affaires étrangères est en route pour la Chine et se dit en quête du bon équilibre avec Pékin, qui est un important partenaire commercial et un acteur souhaitant de plus en plus façonner l'ordre mondial selon ses propres desseins.
Quelques heures plus tôt, son ministère avait mis en garde Pékin contre les postures militaires menaçantes vis-à-vis de Taïwan qui accroissent le risque d'affrontements militaires involontaires. La guerre russe en Ukraine sera également au programme des discussions car le rôle que joue la Chine en influençant la Russie aura des conséquences pour toute l'Europe et pour nos relations avec la Chine, souligne la ministre. La Corée du Nord a tiré ce jeudi un nouveau type de missile balistique, possiblement à combustible solide selon l'armée sud-coréenne, ce qui marquerait une avancée technologique et stratégique majeure pour le programme d'armement de Pyongyang. Ce lancement constitue une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, accroît inutilement la sécurité dans la région, a dénoncé dans un communiqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité de Washington.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique, nous retrouvons Claire Morin-Gibourg dans sa Minute Éco.
L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal et Coris Bank International ont décidé de renforcer leur coopération. Une convention de partenariat a été signée pour accompagner de façon plus soutenue un plus grand nombre de PME-PMI sur le marché sénégalais en leur permettant d'accéder à des financements. Le groupe de la Banque africaine de développement va mobiliser près de 4 millions de dollars pour aider le Burundi à se procurer d'urgence plus de 3 000 tonnes d'engrais au cours de la prochaine saison agricole. Cet appui va permettre au pays de se procurer des engrais pour la première phase de la saison qui débute en mai. Les besoins du Burundi pour toute la saison sont estimés à 145 000 tonnes. L'inflation aux États-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu et s'inscrivant ainsi à son plus bas niveau depuis presque 2 ans. Ce rapport montre les progrès continus dans notre lutte contre l'inflation, s'est félicité le président Joe Biden dans un communiqué de la Maison-Blanche. L'inflation a maintenant chuté de 45% par rapport à son pic de l'été, a-t-il souligné.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien, la RDC s'apprête à accueillir les 9e Jeux de la Francophonie.
Oui, cette 9e édition des Jeux de la Francophonie aura lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Les autorités congolaises poursuivent les travaux et espèrent être prêtes. Jean-Louis Mafema.
L'organisation de cette 9e édition des Jeux de la Francophonie, initialement prévue en 2021, avait été reportée à 2 reprises à cause de la pandémie de Covid-19. À 3 mois du coup d'envoi des Jeux, Kinshasa est-elle prête à accueillir ses nombreux visiteurs ? Isidore Kwanja est le directeur du comité national des 9e Jeux de la Francophonie.
Les préparatifs sont de 2 ordres. Il y a la construction des infrastructures, il y a l'organisation matérielle. Du côté de l'organisation matérielle, nous travaillons en collaboration avec le Comité international des Jeux de la Francophonie. Nous avons déjà pris un certain nombre d'engagements, notamment pour la restauration, pour les transports, pour l'hébergement, pour la santé, la sécurité. Donc c'est ça que nous avons comme tâche principale, c'est-à-dire mettre à la disposition des athlètes la logistique nécessaire pour qu'ils puissent faire leur compétition dans les meilleures conditions. C'est le plan de la construction des infrastructures. Oui, justement, on avait eu un retard dû au fait que les paiements n'ont pas vraiment suivi. Mais là, le gouvernement essaye de faire les efforts nécessaires pour que les entrepreneurs puissent avoir des moyens pour finaliser les travaux. Nous sommes en train de faire les suivis nécessaires pour nous assurer que ces infrastructures soient prêtes pour que ces jeux aient lieu effectivement en juillet-août 2023.
Cet événement dédié à la langue française et à la jeunesse se tient tous les 4 ans et réunit près de 1500 athlètes et artistes francophones des 5 continents. Cet événement à la Quinoa sera-t-il un succès? Isidore Kwanja en est convaincu.
Je demande à mes compatriotes que chacun y mette un peu du sien pour que nous puissions réussir cet événement ici dans notre pays parce que ça pourra nous ouvrir
des portes à d'autres événements aussi importants que nous pourrions organiser dans les années à venir.
Ce 9e jeu de la francophonie devrait se dérouler sans problème majeur et les organisateurs promettent que cette édition sera la plus digitale de l'histoire des jeux.
Merci Jean-Louis.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous Eric Manilakidza, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La situation sécuritaire à Ménaka au Mali se dégrade de manière significative malgré les efforts déployés par les forces de sécurité du pays. Cette détérioration s'accompagne d'une instabilité grandissante ainsi que d'une rareté des moyens de subsistance qui plonge de nombreux résidents dans une situation économique très précaire. Pour mieux comprendre la situation, Modibo Dambélé a contacté Moussa Ag Ezagé, un résident de Ménaka qui a accepté de témoigner. Le témoignage de Moussa Ag Ezagé, un résident de Ménaka, joint par Modibo Dambélé.
Je suis au second cycle de la cour de la gendarmerie, Ménaka 1, second cycle. La situation sécuritaire à Ménaka est vraiment très faible, surtout, c'est pas par rapport aux attaques de l'armée, surtout à la population civile à Ménaka ville.
Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Chaque jour, on ne fait que sauter sur le mur pour les débarrasser de cette maison. Chaque nuit, et sur les routes. Même aujourd'hui, il y a un véhicule qui a été en terre. Et ce véhicule a été braqué par des bandits. Donc ces bandits-là ont dépouillé tous les jeunes de ce qu'ils ont. Ensuite, il y a un jeune dont j'ignore son nom. On l'a demandé, donc il dit qu'il n'a rien, il vient de quitter l'hôpital. On l'a frappé, lui aussi, étant très énervé. Il a terrassé un de ses bandits. Il l'a piqué avec le couteau sur son ventre. C'est en ce moment que les autres bandits ont tiré sur lui.
Et moi. Au niveau de Ménaka là-bas, qui sont ces bandits?
Sinon, les gens disent ça va. Les bandits des mouvements soi-disant signataires des accords, ce qu'on appelle les Daoussa, sont les mêmes bandits qui tuent la population, qui braquent les gens. C'est surtout les Daoussa et les Imarades.
Et qu'est-ce que l'armée fait face à ces menaces de sécurité?
L'armée, il est en train de faire du sommier, il est en train de cacher vaste. Si par exemple un cas se passe à 2h du matin à Toulouse, l'armée n'est pas au courant. Ils évitent les patrouilles des militaires. L'armée fait ce qu'il est en train de faire, ce qu'il peut faire. Mais maintenant, si par exemple les 5 véhicules des patrouilles vont à Toulouse, les bandits vont aller au premier cachet pour faire des gaffes et disparaître dans la nature. Un manque d'effectifs. Normalement, si c'est 10 véhicules, les autres laissent, ils vont diviser les 5, c'est 10 véhicules en 2. L'autre va à Toulouse, l'autre va. En ce moment, il faut que toute la population ait les numéros de l'armée. En ce moment, si quelque chose se passe, on appelle.
Est-ce que la population a de quoi à se nourrir avec cette insécurité?
Non, absolument rien. Il n'y a plus de temps. La population de Ménaka souffre. Pas du tout. Il n'y a pas de denrées alimentaires.
Et comment elles se nourrissent alors?
Voilà, ceux qui n'ont rien, ils vont manger. Ceux qui ont quelque chose, ils vont garder ça pour eux-mêmes. Voilà, ils se nourrissent. Par exemple, quand ils ont des animaux, là, ils vendent un animal pour payer quelque chose.
Témoignage de Moussa Ag Ezagé, un résident de Ménaka, joint par Modibo Dambélé.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ex-rébellion Touareg estime qu'il n'y a aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. La veille, elle a dénoncé le survol de la ville du Nord par des avions de l'armée. Une montée de tension qui a poussé le groupe de médiateurs à faire des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. L'accord d'Alger est-il menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités? Quelle solution pour une paix définitive dans le nord du Mali? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le mouvement international de Sankofa, qui encourage les Noirs à se réapproprier leur passé pour un avenir meilleur, vient de tenir sa conférence 2023 à Washington DC. Au centre des discussions figurait la promotion des relations entre l'Afrique et la diaspora. C'est un reportage de Nani Tetalani.
Les conférenciers venus de divers pays et réunis au centre d'art d'Anacostia dans le sud-est de Washington DC ont d'abord rappelé le sens de Sankofa. Ce motui de la tribu Akan du Ghana se traduit littéralement par retourner, revenez et récupérez-le ou prenez-le. Il indique que ce n'est pas mal de revenir en arrière pour ce qu'on a oublié ou laissé derrière soi. Alpha Kwabo est journaliste et animateur de radio et de télévision basé au Royaume-Uni.
Peu importe si vous êtes né sur le continent africain, aux États-Unis, en Europe ou dans les Caraïbes, parce que nous sommes la nouvelle version de nos ancêtres. Il est maintenant temps de faire les choses correctement. Make
things right. Revisiter le passé est aussi un moyen d'encourager les Noirs à utiliser leurs connaissances pour un meilleur futur pour le continent africain. Nous écoutons encore Alpha Kwabo.
On va commencer à ramener l'esprit de Patrice Lumumba, on va commencer à ramener l'esprit de Kwame Nkrumah, l'esprit de la reine Zinga Kimpap-Vita, tous nos grands des guerriers et des soldats qui ont donné leur vie pour protéger notre peuple, pour défendre notre peuple, et le moment est venu.
Les panélistes se sont concentrés sur la terre africaine qui regorge de ressources naturelles incomparables. Pour Angezomo, artiste TikTok, cette initiative contribue à briser les préjugés. Certains objets qui ont négativement marqué le passé des Noirs, comme les chaînes de l'esclavage, ont été exposés. Certains membres ont reçu des diplômes d'honneur pour leurs actions en faveur du panafricanisme, dont Mélanie Diouf, ancienne enseignante venue de l'État de New Jersey et membre des Black Panthers.
L'Afrique exporte principalement des minéraux naturels, mais exporte également des idées. Je travaille sans relâche pour essayer de réunir à nouveau le nouveau parti des Black Panthers, unir toute la diaspora noire, y compris la diaspora en Afrique.
La conférence a également fait la promotion des livres des leaders africains, la musique, la danse et la poésie africaine. Nanit Talani, Washington DC, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président Joe Biden s'est rendu mardi à Belfast, en Irlande du Nord, 25 ans après l'accord de paix qui a mis fin entre les unionistes pro-britanniques et les nationalistes qui voulaient être rattachés à l'Irlande. Depuis plus d'un an, le parti unioniste refuse de participer aux institutions nord-irlandaises en raison du statut particulier hérité du Brexit. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Anita Powell, fait le point. Le récit est de Nathalie Barge.
À Belfast, le président Joe Biden a souligné l'importance des accords de paix signés le 10 avril 1998 entre unionistes fidèles à Londres, majoritairement protestants, et républicains majoritairement catholiques, partisans d'un rattachement à la République d'Irlande. Mais les institutions locales créées il y a 25 ans sont bloquées en raison des conséquences du Brexit. Depuis plus d'un an, le parti unioniste refuse de participer aux institutions en raison du statut particulier hérité du Brexit. Malgré la conclusion récente d'un accord entre la Commission européenne et Londres sur la frontière physique avec l'Irlande du Nord, la presse a demandé à M. Biden quelle est sa priorité absolue lors de ce voyage.
M'assurer que les accords irlandais et l'accord cadre de Windsor restent en place. Maintenir la paix, c'est le plus important.
La chercheuse Donatienne Ri du Centre d'études stratégiques et internationales assure qu'il y a une volonté bipartite aux États-Unis de voir l'Irlande réussir et qu'il est possible d'encourager la stabilité de diverses manières.
Il peut y avoir des investissements dans la région, des envoyés spéciaux qui restent investis. Et je pense qu'il faut faire des efforts pour renforcer la confiance. Après l'accord du Vendredi Saint, nous avons tous supposé que la paix était gagnée. C'était vraiment le moment de passer à la vitesse supérieure.
Pour le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint s'annonce difficile.
Nous voulons voir les institutions de l'accord du Vendredi Saint restaurées afin qu'elles puissent donner de l'espoir à la nouvelle génération. Et nous aimerions voir les habitants d'Irlande du Nord bénéficier des riches opportunités économiques qui s'offrent à eux.
Pour Joe Biden, cette visite est aussi une histoire personnelle. Comme la plupart des familles américaines, les Biden venaient d'un autre continent. La petite ville irlandaise de Ballina a été le début de leur aventure. Le conseiller indépendant de Ballina, Mark Duffy, a déclaré que sa ville célèbre cette année 300 ans d'existence. Cette localité est jumelée avec Scranton, aux États-Unis, la ville de M. Biden.
Les Irlandais sont partis d'ici pendant l'oppression et la famine, sont allés à Scranton et ont travaillé dans les mines de charbon et sur les chemins de fer, des emplois vraiment difficiles, mais avec fierté et enthousiasme pour une vie meilleure. Ils ont pu fournir cela à leur peuple. La boucle est maintenant bouclée avec un fils de Ballina devenu président des États-Unis.
Vendredi, Joe Biden s'exprimera devant les habitants de cette modeste ville irlandaise pour un discours qui sera entendu dans les capitales du monde entier.
Hello everyone! Voulez-vous mieux parler l'anglais? Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 TU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 TU, juste après English USA.
En Afrique du Sud, comme partout ailleurs, tous les musulmans observent le ramadan par la prière et le jeûne. Certains voient le mois sacré comme une occasion de tendre la main aux personnes dans le besoin au sein de leur communauté. Zahir Kassim a échangé avec des habitants de Johannesburg. Voici son reportage relaté par Thierry Kaoré.
À Fort Bourg, un quartier majoritairement musulman de Johannesburg, les rues sont calmes pendant la journée car le jeûne du mois sacré du Ramadan est en cours. Mais l'imam Chanel Kassim, directeur d'une école pour enfants défavorisés au Cap, travaille dur. Il va de magasin en magasin à la recherche de dons. Chanel Kassim assure que c'est l'esprit du Ramadan ou une façon de construire l'iman, une démonstration de foi et de bonnes actions dans l'islam.
Ramadan is a blessing for us.
Le ramadan est une bénédiction pour nous, vous savez. Il ne s'agit pas de nous affamer, de rester à l'écart de la nourriture et des boissons. Il s'agit de construire l'iman. Alors Allah arrête tout et nous rappelle. Écoutez, ici, c'est le mois où vous devez essayer de vous élever spirituellement.
Des organisations locales à but non lucratif, telles que Islamic Relief, collectent également des dons de nourriture pour des personnes dans le besoin. L'organisation fournit des aliments à plus de 1000 familles à travers le pays. Mais ses membres disent que les problèmes économiques limitent leur travail. Adila Sirkoft, chargée de la collecte de fonds pour Islamic Relief Community.
Les produits d'épicerie qui coûtaient 300 rand, environ 16 dollars, le dernier ramadan sont maintenant presque le double, 600 à 700 rand, soit 32 à 38 dollars. Et cela étant dit, le montant et le coût des paniers, vous savez, l'aide alimentaire que nous distribuons, tout a également augmenté en raison de l'économie. Donc l'économie a fait des ravages. Je pense que le besoin augmente chaque jour et rapidement.
Mais la hausse des prix n'a pas arrêté les festivités. Shalim Ardilad est une institution à Fort Bourg spécialisée dans les confiseries sucrées. Le magasin s'active à l'approche de l'iftar, le coucher du soleil, les musulmans souhaitant terminer leur jeûne par une friandise. Moussa Ayami est cuisinier depuis 8 ans. Il jeûne actuellement, mais parvient à passer des commandes sans ressentir la tentation de prendre une bouchée.
Ce n'est pas si difficile, parce que vous voyez, quand vous jeûnez, Dieu vous donne plus de substance, encore de la puissance, pour être fort, pour ne pas se fatiguer. Vous pouvez faire ce que vous voulez sans problème.
Le Ramadan est une période d'unité, de compassion et de solidarité. Les dons à la communauté rendent ce mois sacré encore plus significatif pour les musulmans.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Eric Manirakiza, la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. À la prochaine.